Bonjour, je m'appelle Xavier Fournier et vous écoutez le 16e épisode d'Aventure Fiction. 16e épisode qui n'est toujours pas l'épisode décalé dont je vous parlais la dernière fois, ça viendra en temps utile, même si là aussi le sujet du jour a une grosse actualité. Je vais en effet vous parler aujourd'hui de Moon Knight. Et oui, je sais, Moon Knight est partout, fait l'objet de X articles et autres podcasts, et vous allez me dire que par rapport à ce que je fais ici d'habitude, on est moins dans l'original. D'accord. Seulement voilà. Pour Moon Knight, comme pour d'autres séries télévisées ou films qui ont précédé, je vous avoue que je suis un peu sidéré par la capacité de bon nombre de mes distingués collègues, pas tous, hein, à prendre à chaque fois un album paru 5 ou 6 ans auparavant, grand maximum, et à soutenir mordicus que la dite série télévisée ou que le dit film repose entièrement, majoritairement, sur cette influence et pas sur une autre. Je trouve même que cela s'est intensifié depuis le lancement de Disney+, et la multiplication de séries Marvel. Nous avons donc eu droit à des gens qui soutenaient vent debout que WandaVision était principalement inspiré par la série Vision de Tom King, alors que les références à King sont minimes et que sa série, centrée sur Vision, voyait l'androïde se construire une famille d'êtres artificiels. Pas grand chose à voir. WandaVision était bien plus basée sur des épisodes plus anciens de Steve Englehart et de John Byrne. Mais non, il fallait forcément se borner à Tom King. Pour OK, la confusion était un peu plus compréhensible puisque Matt Fraction a lui-même participé à la production de la série télévisée. Et le comic book écrit par Matt Fraction, oui, absolument, était une référence régulière, c'est vrai. Mais le premier à avoir réellement écrit les aventures de l'archer en solo, et à avoir, entre autres choses, fait de lui un héros sourd, Mark Gruenwald était pratiquement absent des tablettes. C'était bien plus tendance d'expliquer que la surdité de Clint Barton venait forcément du seul Matt Fraction. Et le même Gruenwald, créateur du US Agent par ailleurs, était relativement passé sous silence dans les chroniques parues pendant la série Falcon et Winter Soldier au bénéfice d'auteurs plus récents. Tout ça pour vous dire qu'avec Moon Knight, c'est un peu la même chose. Des gens qui se sont découverts une passion soudaine pour Moon Knight ces dernières années, ou même ces derniers mois, à mesure que les bandes annonces se précisaient, ont donc décidé que la série télévisée Moon Knight doit forcément tout à l'excellent comic book produit par Jeff Lemire et Greg Smallwood il y a un peu plus de 4 ans. Au point parfois de passer totalement sous silence le nom des créateurs effectifs de Moon Knight. Alors il serait facile, trop facile, de répondre à ce jeunisme par une forme de vieillisme, de vous dire que les séries récentes ne comptent pas, que c'était mieux avant, et que dans les épisodes anciens, on trouve tout, et qu'on n'a pas besoin des nouveaux. Mais ce serait là aussi se tromper, disons, tomber dans l'essai inverse. Ce que je préfère, moi, c'est vous parler de l'effort collectif qu'il a fallu pour former Moon Knight au fil des ans. De ses créateurs, oui, mais des autres auteurs, anciens ou récents, qui se sont succédés pour apporter des choses. Parce que seul le récent est à la mode, ou avant c'était mieux, c'est lourdement se tromper dans l'interprétation d'une série télévisée qui, dans certaines scènes, arrive à caser des hommages à trois époques différentes du même comic book. Le moderne et l'ancien ne s'opposent pas dans Moon Knight. Ils collaborent. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi, sans spoiler a priori. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'Aventure Fiction se nourrit d'une page Tipeee dont vous trouverez le lien dans la description de cet épisode, que tout soutien est bon à prendre, c'est-à-dire que même si vous ne faites pas partie des sympathiques tipeurs qui entretiennent ce podcast, vous pouvez aussi tout simplement faire tourner. C'est-à-dire que vous utilisez le lien de cet épisode ou des épisodes qui ont précédé, ou celui de la page mère d'Aventure Fiction, et en faisant ça, à moindre frais, vous aidez à faire connaître le podcast, et ça fait de la publicité directe et indirecte, et c'est toujours bon à prendre. Je vous en remercie par avance. Et maintenant, Moon Knight. Moon Knight est un personnage qui a débuté en 1975, d'abord comme personnage secondaire dans une série qui s'appelait Werewolf by Night. Werewolf by Night, c'est-à-dire, traduit littéralement, c'est le loup-garou la nuit, c'était tout simplement une série qui avait été lancée au début des années 70 chez Marvel, et qui rebondissait sur le fait que le Comics Code s'était considérablement calmé. Le Comics Code, c'était un petit peu l'organe d'autocensure des éditeurs de comics, et je l'ai déjà évoqué une ou deux fois dans les chroniques précédentes. Et à une époque, le Comics Code interdisait, de manière très puritaine et très conservatrice, d'utiliser tout ce qui était vampire ou loup-garou dans des histoires de comic book. C'était censé être trop effrayant, c'était censé être trop païen, et longtemps on en est resté à ça. Au début des années 70, il y a Il y a une petite éclaircie dans ce côté puritain, où tout simplement on se met un petit peu à jour dans les tendances du moment et dans ce que de toute façon on pouvait voir à la fois au cinéma et à la télévision. Et donc, ben, d'un seul coup, les éditeurs de comics deviennent libres d'utiliser des loups-garous dans les comic books. De cette nouvelle réalité est née tout simplement cette série, à plus forte raison parce que Marvel publiait à côté de ça les aventures de Dracula, qui avait été un petit peu absorbé dans l'univers Marvel, et puis une série un peu plus courte qui reposait sur le monstre de Frankenstein. Et ce qui fait qu'une fois que vous avez Dracula, le monstre de Frankenstein, et ben en fait, le troisième nom qui vient en tête, c'est celui d'un loup-garou, et comme ça, vous avez un petit peu la triade des films de monstres de la Universal ou des choses comme ça. Et donc, il y avait cette série de loup-garou qui est moyennement originale, surtout parce qu'on l'avait confié à l'époque à un dessinateur qui s'appelait Don Perlin, et qui n'était pas forcément le dessinateur le plus sanguinaire, le plus horrifique de l'époque. Je pense d'ailleurs que ce n'était pas fait de manière innocente, c'était sans doute pour que la série reste, on va dire, de bon ton, comparé à des dessinateurs qui auraient été plus réalistes et qui auraient montré un petit peu plus de choses un peu plus gore. Donc, Werewolf by Night paraît, ce sont les aventures d'un loup-garou qui s'appelle Jack Russell, et au bout de quelques mois, le scénariste de la série, Doug Munch, a l'idée d'opposer ce loup-garou à un personnage qui serait son antithèse. C'est-à-dire, pas une sorte d'anti-loup-garou, mais une sorte de chasseur de loup-garou. Et à partir de là, on se plaît à imaginer quel personnage peut faire face à un loup-garou. On imagine donc un tueur, ou plus exactement un mercenaire qui travaille à la solde de quelques adversaires du werewolf. Et ce tueur devient très vite un personnage dans un costume blanc, avec une cape qui évoque un petit peu un croissant de lune. Et puis fondamentalement c'est ça, c'est-à-dire que le chasseur de loup-garou sera un type dont toute l'imagerie renvoie à la lune. Et c'est ainsi que naît Moon Knight, d'abord dans un rôle du coup pas tout à fait sympathique, hein, c'est un mercenaire acerbe et un peu cynique qui est payé pour tuer le héros de la série où il apparaît. On peut même dire que fondamentalement les un ou deux premiers épisodes de Moon Knight tel qu'il apparaît dans Werewolf by Night le rapprochent plutôt d'une sorte de Deadpool de l'époque, d'une sorte de Deadpool du milieu des années 70. Il appartient, et c'est bon de le préciser, à la même génération de personnages que Wolverine ou le Punisher, qui sont nés eux aussi dans ce milieu des années 70. Et donc, c'est une création de Doug Munch et de Don Perlin, et il convient de noter que Don Perlin, c'était pas un grand designer de personnages. Si on prend toute la série Werewolf by Night, le loup-garou affronte un certain nombre de sorciers, de démons ou choses comme ça. Et en général, quand Don Perlin s'emploie à dessiner un costume, une apparence, alors je suis sûr que ça va faire hurler forcément le fan qu'il y a au fond des costumes et des apparences inventées par Don Perlin, mais ça reste quand même très grand guignol. Et pas forcément, voilà, on n'est pas forcément dans une emphase un petit peu à la Jack Kirby, et les sorciers tels qu'on les croise dans les aventures du Werewolf sont bien éloignés de personnages tels que Dr. Doom ou Magneto. Tout ça pour vous dire, loin de vouloir démonter Don Perlin, que pour le coup, quand il va inventer Moon Knight, il va vraiment lui trouver une esthétique qui quelque part fait qu'il se distingue et qui s'impose assez vite. Et donc pour le coup, je pense d'ailleurs que c'est sans doute le meilleur ou l'un des meilleurs designs de personnages de Don Perlin de toute sa carrière. Il y a donc ce costume blanc, un costume avec une cagoule blanche, une cape blanche, et dans cette première version, il y a en plus un pantalon assez caractéristique avec des bandes noires qui remontent sur le centre du pantalon. C'est un élément qui va disparaître par la suite. Et surtout un système de cape qui évoque un petit peu un croissant de lune et qui permet au héros de planer. Et tout l'arsenal de Moon Knight est un petit peu basé à la fois sur l'imagerie de la lune et sur le fait qu'il faut à un moment espérer détruire ou supprimer un loup-garou. Ce qui fait qu'on va assez vite lui découvrir des espèces de mini-boomerangs qui eux aussi sont en forme de lune, mais le propre dans l'histoire, c'est que ces mini-boomerangs sont supposés être en argent, et que donc ils feraient plus de mal à un loup-garou. Sorti de là, on comprendra très vite que, à l'intérieur de la série Werewolf by Night, le rôle de Moon Knight est limité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ce chasseur de loup-garou qui a affronté le loup-garou, puis finalement, qui plus ou moins s'est rangé de son côté, enfin, qui ne l'a pas vraiment battu, comment le ramener à la longue et comment faire pour renouveler le personnage sans l'épuiser. En fait, à l'époque, Marvel trouve que ce personnage a du potentiel. Et plus de potentiel, finalement, que ce que peut lui permettre la série Werewolf by Night. On va donc très vite à la fois tester Moon Knight et le transformer à travers diverses apparitions aux côtés d'autres héros. Et donc, Moon Knight passe en quelques étapes du rang de super-vilain à celui de super-héros en work in progress. Alors en particulier, il y a un épisode de Defenders de l'époque où Moon Knight aide l'équipe, mais c'est un moment où son image, sa réputation et ce que l'on a en droit d'attendre de lui ne sont pas encore réellement formés. Il y a même un moment où on se demande si Moon Knight ne va pas abandonner l'équipe à son triste sort. Mais surtout, il a un côté pragmatique qui le distingue des autres. Dans une scène, l'adversaire tente de le noyer, mais Moon Knight doit la vie sauve à une canette de boisson qu'il a vidée et qui lui fournit une réserve supplémentaire d'oxygène. Et ça, c'est pas tous les super-héros qui y auraient pensé. On va très vite découvrir que Moon Knight n'était pas cet assassin immoral qui semblait être dans les aventures de Werewolf by Night, qu'il ne faisait que faire semblant de travailler pour la conspiration qu'il utilisait contre Werewolf by Night, et que lui-même était là surtout pour l'infiltrer, la détruire de l'intérieur, et qu'en fin de compte, c'est véritablement une sorte de héros. D'ailleurs, il y aurait sans doute matière à faire une sorte de série de Moon Knight, façon Moon Knight Tier 1, quand le personnage était encore dans la zone grise, quand il avait encore une sale réputation, et qu'il était capable de passer pour un criminel. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Toujours dans l'idée de tester Moon Knight, Marvel va placer le personnage dans les pages du magazine Rampaging Hulk, où il devient ce qu'on appelle une backup régulière, c'est-à-dire une histoire publiée auto, à la traîne de l'histoire principale. Le récit majeur, en l'occurrence, est celui de Hulk, et il y a donc en complément des histoires solo de Moon Knight. Et c'est là qu'on va atteindre un nouveau palier avec le personnage. D'abord parce que si c'est bien Doug Munch qui continue d'écrire Moon Knight, rapidement le jeune dessinateur Bill Sienkiewicz intègre l'équipe. Dans un premier temps, Sienkiewicz s'inscrit dans la lignée d'un autre artiste, d'un autre dessinateur de comics, Neil Adams, avec un style très réaliste. Au même moment, Munch transforme son Moon Knight mercenaire en une sorte d'émule de Batman. Et autant, on le verra plus tard, Moon Knight n'est pas simplement un Batman bis, autant à cette époque, la volonté de lorgner sur Batounet et sur le Shadow, un héros de Pulps, cette volonté est manifeste. Et donc, Moon Knight est en alternance le mercenaire Mark Spector ou le milliardaire Stephen Grant. Au lieu du Batplane, il a le Mooncopter, piloté par son ami moustachu Frenchy. Et très vite, on va faire la connaissance d'un premier ennemi juré de Moon Knight, c'est-à-dire le propre frère de Mark, Randall Spector, un serial killer utilisant une hache, mais aussi et surtout un masque de clown pourvu de cheveux verts. L'allusion au Joker est évidente. Seulement, dans le même temps, Doug Munch prend la peine de montrer en quoi Steven Grant n'est pas Bruce Wayne, ou la plupart d'ailleurs des autres super-héros. Il y a la présence de la blonde Marlène, la maîtresse du héros, qui elle aussi renvoie un archétype des romans pulp, et qui, avec nos yeux d'aujourd'hui, peut passer pour une potiche qui attend à la maison le retour du héros. Sauf que si on se remet dans le contexte de l'époque, c'est pas du tout ça. Si on s'intéresse à la fin des années 70, la plupart des super-héros étaient célibataires. On peut citer quelques exceptions telles que Hawkman ou Aquaman, mais globalement, l'archétype même du super-héros, c'était celui de Superman ou de Spider-Man, c'est-à-dire pas de couple, toute la difficulté du héros solitaire qui ne veut pas partager son identité et qui, bien entendu, ne peut pas imaginer une femme dans sa vie. Rajoutez par-dessus ça le conservatisme des éditeurs de comics, leur côté puritain dont je vous parlais tout à l'heure, et le fait que fondamentalement, on ne pouvait pas franchement envisager de montrer dans la page une relation entre adultes hors mariage. Et donc Marlène, dans le contexte de cette fin des années 70, elle arrive complètement en oblique par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que c'est une femme qui d'emblée connaît la double identité, la triple identité, la quadruple identité de Moon Knight, puisqu'il a plein de noms différents. Elle est au courant de tous ses secrets, et fondamentalement, ça ne la gêne pas pour partager sa vie. Et donc, il y a un parfum plus mature, sous cet angle-là, plus libération sexuelle, qui est de dire, voilà, Moon Knight n'est pas Peter Parker, n'est pas Clark Kent, n'est même pas Bruce Wayne, dans le sens où il est une femme dans sa vie, et il n'y a pas de pathos autour de ses secrets ou son identité secrète, et ils vivent le parfait amour dans sa riche demeure, en fait un amour libre qui ressemble à celui des années 70. Là-dessus, ça le caractérise dans l'époque. Même si on est d'accord que, des décennies plus tard, l'archétype de la jolie blonde qui attend auprès de la piscine que son homme revienne du combat, et ça a un peu vieilli. Les relations avec Steven Grant et Marlène sont aussi très différentes dans leur culture générale. C'est-à-dire que, par exemple, Doug Munch va mettre en scène dans un épisode le moment où le couple apprend la mort de John Lennon. Et donc, en pleurs tous les deux, ils se mettent à jouer du piano. Et on n'imagine pas forcément Batman se mettre à pleurer en apprenant la mort de John Lennon. C'est là aussi une manière de distinguer un petit peu la caractéristique et la culture générale, le background de ce personnage qui finalement, bah, si on rapproche à la fois son côté amoureux, son côté libre, et puis fondamentalement cette culture, j'allais dire hippie, mais disons pop, de l'époque qui transpose un petit peu, eh ben on n'est vraiment pas dans le même profil qu'un Bruce Wayne. Le vrai démarrage de Moon Knight intervient en novembre 1980 avec le premier épisode d'une nouvelle série mensuelle illimitée. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Moon Knight a son propre titre. Et ce premier épisode, c'est une origin story avec tous les détails de comment et pourquoi le héros est devenu Moon Knight. Parce qu'on avait eu jusqu'ici quelques indices, quelques signes, quelques références, mais on n'avait jamais eu la totale. Et cette fois-ci, les détails vont être là. À la base, il y a Mark Spector, un mercenaire, et comme tous les mercenaires, Mark Spector se vend au plus offrant. Mais petit à petit, il se découvre une moralité. Et quand ses complices, à la tête desquels il y a le terrible Bushman, une autre forme du Joker, c'est-à-dire que c'est un mercenaire noir, mais dont le visage a été tatoué de blanc. Et donc, on a ce Mark Spector qui travaille avec des gens peu recommandables, et qui un jour, alors que les mercenaires attaquent un camp d'archéologues, Spector donc décide de s'interposer et d'essayer de sauver les gens. Et forcément, comment dire, il se prend ses ex-complices sur la figure, qu'il l'abandonne, qu'il le laisse mort dans un ancien temple qui est consacré au dieu Khonshu, le dieu de la vengeance ou de la justice chez les Égyptiens. À partir de là, Spector, qui avait été laissé pour mort, renaît devant une statue de Khonshu, décide que c'est le dieu qui l'a ressuscité et décide surtout que tout le restant de sa vie, il va le mettre au service de la justice. Avec cette nouvelle série régulière, on atteint une sorte de vitesse de croisière et on définit bien les rôles entre Steven Grant, qui est la figure publique du milliardaire, Mark Spector, qui est le mercenaire, mais qui est plutôt l'homme du passé, et qui était plutôt le visage criminel du héros, et puis Jack Lockley, qui est en fait un chauffeur de taxi, et qui est une identité dont le héros se sert pour aller dans les bas-fonds, et finalement rôder un petit peu dans les rues de New York. Alors, les trois personnages existaient déjà dans les apparitions précédentes de Moon Knight, mais la série régulière va permettre d'y mettre un peu d'ordre. Et il est intéressant de relire ce premier épisode avec le recul, parce que la question de l'existence de Khonshu, le dieu égyptien, qui est supposé avoir animé le héros, cette question, elle est loin d'être tranchée au début. En fait, Khonshu n'apparaît que sous la forme d'une statue forcément muette, et toute l'histoire de la résurrection n'apparaît que sous la forme d'explication du héros. C'est-à-dire que c'est Spector qui nous dit qu'il a été ressuscité par Khonshu, mais finalement, on n'a que sa parole pour le croire, et même le lecteur n'a rien vu de particulier. C'est-à-dire qu'on ignore finalement si tout cela ne se passe pas simplement dans sa tête. Cette série régulière permet aussi d'ouvrir un peu le casting, avec non seulement l'informateur Crowley, qui est une sorte de Guy les bons tuyaux, mais aussi Gina, l'aimable patronne d'une cafétéria, ainsi que ses enfants, qui deviendront tous, d'une certaine manière, d'une façon ou d'une autre, des assistants de Moon Knight, des complices du héros. Crowley, c'est ce personnage pourvu d'un monocle qui joue les statues dorées dans les premiers épisodes de la série télévisée. Dans les comics, il existait depuis 1976, dans des épisodes solo de Moon Knight parus dans Marvel Spotlight, mais là aussi, la série régulière permet d'ordonner les choses. Il y a aussi l'aspect du dédoublement de personnalité qui va prendre une place croissante. Parce qu'au début, en effet, Moon Knight semblait avoir la maîtrise de ses différentes identités, bien qu'il puisse parfois apparaître assez tendu. Comme un contre-champ, le scénariste Doug Munch installe de manière discrète une sorte d'écartèlement du héros. Par exemple, Frenchy, le pilote d'hélicoptère, ami de longue date, l'appelle toujours par le prénom Mark quand ils sont seuls. Pour Frenchy, Mark, c'est le vrai visage du personnage. Les autres sont des masques. Mais, inversement, la belle Marlène fait le contraire. Normal, pour elle, Mark Spector, c'est le mercenaire qui a pris part dans les événements menant à la mort de son propre père à elle. Donc elle préfère largement Steven, l'homme nouveau, celui qui a ressuscité, qui est moral. Et du côté de Gina ou de Crowley, on cohabite plus facilement avec Jack Lockley. C'est à terme qu'on va se rendre compte que Grant Spector Lockley a véritablement un problème croissant et que ses personnalités se font parfois la guerre. Et puis, il convient aussi de compter Moon Knight comme une personnalité à part, avec ses propres problèmes. Par exemple, dans Moon Knight 1, le héros manque de tuer Bushman, son pseudo-joker. Mais c'est Marlène qui s'interpose et qui arrive à le convaincre qu'il vaut mieux que tuer ses adversaires. Et c'est là aussi une différence majeure avec Batman. Parce que Moon Knight a un problème avec la violence et n'a pas vraiment de ligne morale. Il a besoin que des personnages secondaires viennent lui expliquer où s'arrêter. Et c'est ça le truc quand vous lisez la série à cette époque. Moon Knight se comporte selon le personnage qu'il a en face de lui. S'il a devant lui Marlène s'attendant à ce que le héros costumé se comporte comme Steven, alors il le fait. Mais s'il avait été conseillé par Frenchy, il y a fort à parier qu'il se serait comporté comme Spector et qu'il aurait tué Bushman. Et finalement, Moon Knight ressemble un petit peu à ces cartoons et ces caricatures où vous avez un personnage qui essaie de prendre une décision et vous avez deux consciences, l'une bonne, l'une mauvaise, qui essayent de lui faire prendre des routes différentes. Alors, ni Marlène ni Frenchy ne sont mauvais, mais en tout cas, ils tirent le héros clairement dans des directions différentes et c'est ce qui va, à un moment ou à un autre, culminer avec une explosion du personnage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Doug Moench donne à son Moon Knight une sorte de toile de fond de culture hippie et gauchiste, en tout cas gauchiste pour les États-Unis. Et cela va aussi se reporter dans certaines aventures plus psychédéliques. Ainsi, dès Moon Knight 7, le héros se retrouve victime d'un gaz hallucinogène qui lui fait péter un plomb. Moon Knight s'imagine transporté sur la Lune, il a des flashbacks de ses combats avec le loup-garou, et il se pense poursuivi par des mystérieux Moon King qui n'existent que dans sa tête. On est en 1981, mais cela devance de plusieurs dizaines d'années des choses que Grant Morrison fera sur Batman au 21e siècle, en particulier sur l'arc Batman RIP, quand Bruce Wayne, drogué, se prend pour un extraterrestre. Dans la catégorie hallucinogène, il nous faut aussi évoquer Morpheus, non pas le personnage de Matrix, mais un adversaire de Moon Knight qui peut projeter des cauchemars et des illusions. Si Randa Spector ou Bushman étaient des avatars du Joker, alors Morpheus est l'équivalent du Scarecrow, de l'épouvantail. Et donc Moon Knight s'inscrit de plus en plus comme un personnage halluciné, qui perd pied dans la réalité, mais pas au point d'oublier le modèle de Batman. Il convient de noter que dans les premières années, la série Moon Knight avait pour responsable éditorial Denis O'Neill, qui s'était taillé une solide réputation quelques années plus tôt en scénarisant des séries comme Batman ou Green Lantern pour DC Comics. Denis O'Neill, dans ses épisodes de Batman, est celui qui a créé le criminel, en apparence immortel, Ra's al Ghul. C'est aussi lui qui a créé le puits de Lazare, élément bien pratique pour ressusciter à volonté Ra's al Ghul ou d'autres personnages. Or donc, au début des années 80, Denis O'Neill était passé chez Marvel Comics, pour qui il supervisait différentes séries, notamment Moon Knight et Daredevil, en ayant une influence directe ou indirecte sur les auteurs. Mais enfin, en l'espace de quelques mois, ces séries Marvel se mettent à refléter des éléments que lui-même utilisait pour Batman. Dans Daredevil, édité donc par Denis O'Neill, Frank Miller met en scène la mort d'Electra, tuée en combattant une variation de la Ligue des Assassins de Batman. Et puis quelques mois plus tard, la même Elektra est ressuscitée via un rituel mystique. Dans Moon Knight, Mark Spector, qui faisait partie d'une bande d'assassins, est tué puis ressuscité par Khonshu. Et c'est bien sous la gouvernance d'O'Neill que cet élément prend une telle place dans la mythologie du héros. On notera aussi qu'ensuite, Denis O'Neill est reparti chez DC Comics et sur des séries liées à Batman, où il a créé, entre autres choses, le personnage d'Azrael. Bien qu'Azrael n'a absolument rien d'égyptien, il faut souligner qu'il appartient à l'ordre de Saint-Dumas et qu'il est lui-même sujet à des changements brutaux de personnalité. Il est programmé pour tuer et voit parfois des apparitions de Saint-Dumas, esprit radical qui pratique une justice sans merci. Bref, si vous transformez Moon Knight en héros médiéval ou si vous donnez un petit côté égyptien à Azrael, vous avez des personnages vraiment très très similaires. Moench cultive le tiraillement et les paradoxes. Il aura ainsi l'idée d'expliquer que Mark Spector est d'origine juive. De fait, nous avons donc un super-héros aux racines juives, mais qui se retrouve à obéir à un dieu antique égyptien, avec tout ce que cela comporte de questionnements. Soit ce sont ses adversaires qu'il manipule, soit sous l'effet d'une blessure, il délire. Et quand il rentre à la maison, il y a donc ce jeu subtil où Marlène et Frenchy tirent chacun de leur côté, avec les meilleures intentions du monde. Mais l'une voulant Steven et l'autre voulant Mark. En fait, des décennies plus tard, le scénariste Charlie Houston révélera que Frenchy est gay, et que l'une des raisons qu'il a de suivre Mark Spector dans tous les coups foireux est qu'il est secrètement amoureux. Ce qui fait de la situation un vrai triangle amoureux, mais qui, quelque part, fonctionne particulièrement bien avec l'idée qu'entre Marlène et Frenchy, chacun des deux tire vers lui la personnalité qu'il aime. En parallèle de ces constantes scénaristiques, il y a aussi le fait que le dessinateur Bill Sienkiewicz progresse à pas de géant. Les épisodes psychés lui permettent d'expérimenter. Il est moins dans la lignée d'autres auteurs de comics et se fait plus anguleux. Certaines cases ressemblent pratiquement au travail du peintre Gustav Klimt, par exemple. Dès lors, plus on avance dans la série, et plus les choses se font scénaristiquement et visuellement psychédéliques. Puis il y a toujours cette réflexion constante sur la violence, avec une ou deux fois des criminels qui montent en puissance en s'inspirant carrément des méthodes de Moon Knight. Doug Munch va ainsi inventer différents reflets négatifs, tels que le Midnight Man, un cambrioleur qui porte une tenue noire qui ressemble beaucoup à celle de Moon Knight, mais donc en plus sombre. Quelques mois plus tard, c'est le tour du Blacksmith, traduisez le forgeron, qui pour le coup ne ressemble pas du tout visuellement à Moon Knight, mais qui décide de devenir super vilain après l'avoir observé. Puisque Moon Knight a tout un arsenal dérivé de la Lune, alors Blacksmith décide de se créer des armes évoquant le forgeron, sans pour autant avoir le même charisme. Un personnage bien plus réussi que Midnight Man ou le forgeron sera Black Spectre, vers Moon Knight 25. Un personnage très brutal qui, dans sa vie privée, est un homme politique populiste qui surfe sur le terme de l'insécurité et de la violence. On peut considérer que c'est une sorte de Bane avant l'heure. Black Spectre donnera beaucoup de fil à retordre à Moon Knight. L'idée de Munch, c'est que la violence attire la violence, et que le héros est prisonnier d'une spirale. C'est souligné entre autres choses dans Moon Knight 26, intitulé Hit Hit, traduisé Frappe dessus, où on a au premier plan le combat entre Moon Knight et un autre homme, tandis qu'au second plan, on a des croquis évoquant des dessins d'enfants qui montrent comment l'homme a été finalement, dès le plus jeune âge, programmé pour la violence. Néanmoins, à un moment, Bill Sienkiewicz s'est appelé sur d'autres projets, en particulier les Nouveaux Mutants, série sur laquelle, avec le scénariste Chris Claremont, il va créer le mutant Légion. A ce titre, Sienkiewicz a donc travaillé au début des années 80 sur les deux principaux personnages de Marvel atteints de désordre de la personnalité et de schizophrénie. Aussi n'est-il pas étonnant de trouver quelques similitudes de nos jours entre la série télévisée Légion et celle de Moon Knight. D'ailleurs, on peut pratiquement tracer une forme de généalogie. Quelques mois plus tard, dans les pages de la Doom Patrol, Grant Morrison va créer l'héroïne Crazy Jane. Et c'est là aussi un personnage qui est atteint de désordre de la personnalité. On peut donc retracer la lignée. Bien qu'il ne soit pas le créateur de Moon Knight, Bill Sienkiewicz a développé, chez le héros, ce côté psyché. Puis il est parti chez les Nouveaux Mutants exploiter ce même fond d'idée. Il est difficile de ne pas faire le lien entre les Nouveaux Mutants et la Doom Patrol de Morrison. Et puis enfin, notons que cette Doom Patrol a été à son tour une inspiration majeure de l'Umbrella Academy, et vous comprendrez que ce qui se passait dans la série Moon Knight au début des années 80 a eu des retombées qui se ressentent encore aujourd'hui, aussi bien dans les comics qu'à l'écran. Ironiquement, bien sûr, Moon Knight arrive à la télévision après des personnages qu'il a en quelque sorte engendrés. Mais bref, Sienkiewicz s'en va, et la série ne va lui survivre que quelques temps seulement. Il serait tentant de penser que le départ de Sienkiewicz équivaut à une baisse de qualité, c'est en partie vrai, et que ceci est la cause de la fin de la série. Mais en fait, il y a un faisceau de raisons. Le principal est qu'au début des années 80, Marvel Comics était encore vendu, surtout en kiosque aux États-Unis, mais que l'éditeur testait un nouveau marché secondaire, le marché direct, ou autrement dit, le réseau des comic shops. Pour ce test, Marvel avait sélectionné trois titres qui sortaient surtout en comic shop, et à peine dans quelques kiosques internationaux. Il y avait Khazar, le Seigneur de la Jungle, les Micronautes, et vous l'aurez compris, le dénommé Moon Knight. Dans le milieu des années 80, l'éditeur décida de mettre fin à l'expérience et de diffuser tous ses titres réguliers en kiosque et en comic shop. Problème, le public des kiosques n'avait pas pu suivre les épisodes des trois séries concernées. Si les ventes de Khazar ne permettaient pas de continuer le titre, Marvel décida donc néanmoins de relancer les Micronautes et Moon Knight avec de nouveaux numéro 1 pour que les lecteurs aient un point d'entrée. Dans le cas de Moon Knight, si ma mémoire est bonne, il y avait en plus le fait que Marvel avait reçu quelques lettres d'avocat de la part de DC, mécontent qu'un ou deux scénarios de Moon Knight ressemblent de trop près à des épisodes parus de Batman. Il fallait donc relancer Moon Knight pour une question de réseau, et comme il fallait aussi modifier un peu Moon Knight pour calmer DC, on allait faire d'une pierre deux coups. En fait, que ce soit les Micronautes ou Moon Knight, les deux relances n'allaient pas durer longtemps. Sans doute d'une part parce que le public des kiosques avait peu d'affect avec les personnages, numéro 1 ou pas, et puis il faut le dire parce que les séries, relancées sans les équipes créatives d'origine, n'avaient pas le même panache. Cela n'empêche pas ce deuxième volume de Moon Knight, sous-titré Fist of Khonshu, parfois abusivement considéré comme une mini-série, d'être sacrément intéressant. Écrit par Alan Zelenetz et dessiné par Chris Warner, le titre reconfiguré s'éloignait du côté justicier urbain ou des personnalités multiples, pour se recentrer et replacer Moon Knight sur un certain folklore mythologique égyptien. Stephen Grant est en effet contacté par les trois derniers prêtres de Khonshu qui font de lui un agent plus directement actif du dieu de la vengeance. Lequel dieu de la vengeance n'était donc pas une illusion de Stephen. En effet, un dieu concurrent, Anubis, a lui aussi un agent sur Terre et il faut le contrecarrer avant qu'il soit trop tard. Au passage, Moon Knight est légèrement relooké avec quelques couches de doré et des accessoires qui font beaucoup plus folklore égyptien. Cette courte deuxième série de Moon Knight est méconnue et elle est assurément plus premier degré que celle qui avait précédé. Pourtant, elle ne manque pas d'intérêt puisqu'elle repousse encore plus loin les limites de la mythologie du héros. Et si vous faites partie des spectateurs de la série télévisée Moon Knight, c'est une inspiration majeure du programme, même si les producteurs ont un peu remixé les choses. C'est dans Moon Knight, Feast of Khonshu, qu'apparaît brièvement le personnage d'Arthur Harrow. Dans la série télé, c'est l'adversaire majeur du héros. Dans la BD, c'est un ancien criminel de guerre, assez vite neutralisé, sans laisser beaucoup de traces. Oui, mais voilà, la série télévisée compresse en fait trois personnages différents. Il y a d'une part Arthur Harrow, et de l'autre côté, l'avatar d'Anubis qu'on croise dès Moon Knight volume 2, numéro 1. Alors bien sûr, les plus attentifs vont me dire que dans la série télévisée, Arthur Harrow est bien un avatar, mais pas du tout lié à Anubis. Alors c'est vrai, ils ont changé la divinité de référence. Emut, autre déesse égyptienne, est en fait une référence beaucoup plus récente à un autre adversaire que Moon Knight a affronté dans les comics écrits par Jeff Lemire il y a quelques années. Mais tout le reste est là. Dans la bande dessinée des années 80, l'adversaire de Moon Knight utilise une canne avec une tête de chacal. Là où, pour Disney+, c'est une double tête de crocodile. Mais la scénographie est la même, et dans les deux cas, le personnage peut tuer d'un simple toucher. Le Harrow de la série télé fait donc l'amalgame de trois inspirations différentes en donnant tous les gages nécessaires. Et il est pour moi l'illustration même que rien ne sert d'opposer les épisodes récents aux épisodes anciens. C'est se tromper de guerre, il faut au contraire les faire collaborer en rendant hommage à trois équipes créatives différentes. Autre détail, l'agent d'Anubis tente à un moment d'immobiliser Moon Knight en l'enserrant dans des bandelettes magiques, comme si elles étaient animées. Et il faut sans doute voir dans cette scène une des petites graines qui font que le Moon Knight de l'écran ressemble un peu à un bonhomme Michelin. Bon, en fait, ça se choque surtout sur les photos. Quand c'est en mouvement, ça passe beaucoup mieux. Je précise que des années plus tard, dans la trilogie Earth-X, Moon Knight s'est aussi retrouvé habillé en bandelette façon momie et que c'est une inspiration revendiquée dans les remerciements de la série télé, les auteurs d'Earth-X étant crédités au même titre que ceux de Feast of Khonshu. Mais pour qui connaît le second volume de Moon Knight, cette série télé est vraiment très fidèle à cette époque précise. Je vous le disais, ce second volume de Moon Knight, surnommé Feast of Khonshu, n'a pas duré longtemps. En fait, 6 numéros avant d'être envoyé aux oubliettes. En décembre 1985, Marvel décide d'arrêter les frais, la nouvelle approche n'ayant pas donné les résultats escomptés. Mais Moon Knight, c'est un personnage à la marge, et au bout de quelques années, en 1989, l'éditeur va décider de tenter à nouveau le coup, en s'inspirant de la version la plus viable de Moon Knight, c'est-à-dire celle qui était en vigueur dans la première série mensuelle. C'est le moment où le Punisher en particulier est au sommet de sa gloire. Donc Moon Knight laisse de côté ses gadgets dorés et sa phase mystique, et puis il redevient un héros des rues avec un certain rapport avec la violence. Ou plutôt avec un rapport certain avec la violence. Déjà, le nom de la nouvelle série est en soi un programme. La voici intitulée Mark Spector de petit point Moon Knight. Ce qui laisse entendre que la personnalité dominante, c'est bien celle de Mark. Et puis, fini l'époque de l'introspection telle que voulue par Doug Munch. Cette nouvelle série est écrite par Chuck Dixon, un auteur qui va s'illustrer par ailleurs sur les aventures du Punisher ou chez DC Comics sur plusieurs séries liés à l'univers de Batman. Dixon, c'est entre autres choses le co-créateur de Ben. Il a un positionnement politique totalement différent de celui de Munch, et son propre rapport avec la violence n'est pas le même. D'ailleurs, dès les premiers épisodes de cette nouvelle mouture, les différences sont manifestes. Bushman, l'ennemi juré de Moon Knight, revient. Désormais, il est protégé par l'immunité diplomatique, puisqu'il est un des leaders du Burundi, un pays africain fictif. A noter qu'on surfe à nouveau sur les rapprochements avec Batman, puisque quelques mois plus tôt, dans les pages de Batman 429, le scénariste Jim Starlin avait fait du Joker un ambassadeur de l'Iran, protégé lui aussi par l'immunité diplomatique et contre lequel Batman ne pouvait plus grand-chose. Chuck Dixon apporte donc dans Moon Knight la même idée, avec Bushman qui touche à la politique. Et il convient de noter que quelques temps plus tard, reparti chez DC Comics, Dixon réutilisera la même ficelle en faisant de Ben un émissaire du pays fictif de Santa Prisca. Mais donc, dans ses premiers épisodes de la troisième série consacrée à Moon Knight, Bushman est désormais lié à un pays étranger. Et pour se venger du héros, il enlève la belle Marlène. Fou d'inquiétude, Moon Knight est obligé de les poursuivre à l'étranger, jusqu'au Burundi. Mais quand Moon Knight finit par vaincre Bushman, parce que, spoiler, Moon Knight finit par vaincre Bushman, Marlène surgit en maillot de bain, une arme automatique à la main, demandant au héros s'il ne serait pas le moment de se débarrasser une bonne fois pour toutes de Bushman. Comprenez, de le tuer sur place. Mais Moon Knight refuse, et ils partent sans avoir achevé leur ennemi. Ce qui sera, dans les numéros suivants, une source de dispute entre le héros et sa dulcinée. Cette dernière considérant que Bushman ne méritait aucune pitié. Pour rappel, dans Moon Knight volume 1 numéro 1, c'était l'inverse. Moon Knight voulait s'acharner sur Bushman, et Marlène lui demandait d'arrêter. Si on se rappelle que Marlène est supposée être un compas moral pour Moon Knight, cette inversion est particulièrement parlante sur la manière qu'a Dixon de voir les choses. Ça c'est pour l'épisode 3, mais l'épisode 4 cache mal une volonté de Dixon de continuer de lorgner sur Batman. Dans ce numéro apparaît Midnight, le fils du Midnight Man. Fils naturel de son père, il le connaissait assez peu, et rapidement Midnight se prend d'admiration pour Moon Knight, au point de vouloir devenir son assistant. Alors bien sûr, on pense tout de suite à l'archétype de Robin, de Batman, mais Midnight n'est pas l'équivalent de n'importe quel Robin. Quelques épisodes plus tard d'ailleurs, il semble périr lors d'un combat, et Moon Knight s'en veut forcément. En fait, Chuck Dixon canalise la mort de Jason Todd, le deuxième Robin. Mais involontairement, Marvel va aller plus loin dans le parallèle. Car Jason Todd ne reviendra à la vie qu'une quinzaine d'années plus tard, d'abord bien décidé à se venger de Batman. Et Midnight fait pareil, mais bien avant. Non, il n'est pas mort. Son corps a été récupéré par une organisation criminelle et ranimé en tant que cyborg meurtrier. Et forcément, Midnight en veut à mort à Moon Knight. Le concept sera d'ailleurs à la base d'un crossover impliquant différents héros Marvel, parmi lesquels on trouve Spider-Man. Et Marvel va même aller jusqu'à faire un gros pied de nez, puisque le crossover en question a pour titre Round Robin, expression américaine qui veut dire, en gros, un bruit qui court. Mais dans le cas présent, tout le monde aura bien compris qu'il s'agit de caser le mot Robin. Et puis, il faut le dire au passage, la saga de Midnight, l'ancien allié qui revient en cyborg assassin, ce n'est jamais que le soldat de l'hiver avant l'heure. Comme il a fallu mettre en scène une rupture avec les racines égyptiennes de Moon Knight, ce volume repose aussi sur une explosion des liens entre Spector et Khonshu. Le héros ayant décidé de reprendre son indépendance, Khonshu le prend mal, et il y aura d'ailleurs l'apparition d'une secte, les Knights of the Moon, qui sont des fanatiques de Khonshu et forcément s'opposent au héros. On peut considérer que c'est à cette période que Khonshu devient une entité de plus en plus invasive, voire même carrément maléfique, ou en tout cas dans les décisions sont de plus en plus radicales et de moins en moins morales. Moon Knight tentera de mettre sur pied une version plus humaniste, plus positive des Knights of the Moon, mais un problème se précise. Le héros se découvre bientôt mourant. Les derniers temps de la série voient d'ailleurs Mark essayer de sélectionner un successeur. L'ironie est qu'à un moment, Spector envisage sérieusement de recruter le jeune Peter Parker, tout en ignorant qu'il est en fait Spider-Man. Le regard de Batman revient lui vers 1992, quand une version démoniaque de Moon Knight, Moonshed, se met à chasser les versions alternatives de Moon Knight à travers le multivers. Le scénariste Terry Cavanagh et le dessinateur Klaus Janson, entre autres, inventent alors Dark Moon, qui est une allusion évidente au Dark Knight de Frank Miller et du même Klaus Janson. Un autre héros, Moonman, flanqué de son fidèle Moonboy, est un clin d'œil appuyé au Batman et Robin des années 50. Au passage, on notera que Moon Knight s'amusait finalement à faire du Spider-Verse bien avant Spider-Man, ou même avant Doctor Strange. Parce que figurez-vous que l'épisode s'appelle Multiverse Madness, et on n'est pas loin du titre du film de Doctor Strange. Les derniers mois du titre sont marqués par l'arrivée sur la série d'un nouveau dessinateur, Steven Platt, à l'époque soudainement très populaire. Les ventes décollent donc, mais trop tard. Finalement, Moon Knight meurt dans le 60e et dernier épisode de la série, toujours écrit par Terry Cavanagh. Mark Spector trouve héroïquement la mort dans une explosion. Marlène, qui a récupéré la fortune de Spector, jure alors d'utiliser l'argent pour une meilleure justice. Et la série s'arrête en 1994, sans tambour ni trompette. La meilleure preuve étant que cette mort finale n'est pas restée dans les mémoires. À un moment, on peut croire que Marvel est parti pour faire tabula rasa, c'est-à-dire remplacer Mark Spector par un nouveau ou une nouvelle Moon Knight qui pourrait être coté à nouveau par Khonshu ou bien financé par l'argent de Marlène. Il y a d'ailleurs des précédents dans la même décennie, par exemple l'apparition d'un nouveau Ghost Rider. Il faut cependant attendre 4 ans pour que Moon Knight soit remis sur les rails à travers une mini-série à nouveau scénarisée par son créateur Doug Munch et dessinée par Tommy Lee Edwards. Forcément, celui qui est à l'origine du personnage décide de revenir sur les fondamentaux. Moon Knight semble prisonnier des limbes, de l'au-delà, et ne sait plus trop même si sa mort n'est pas simplement une illusion. Mais sur Terre, pendant ce temps, comme Anubis avant lui, un autre dieu égyptien, Seth, se choisit un nouvel avatar pour concurrencer Khonshu. Le même soir, Marlène et Frenchy visitent une dernière fois le manoir Grant, Et au passage, notons que Dungmuench joue toujours finement sur l'usage des prénoms. Marlène s'est désormais résignée à la mort de son amant, et elle utilise le prénom Mark pour l'évoquer avec Frenchy. Mais bientôt, une grande statue de Khonshu explose dans le manoir, révélant le corps réanimé du héros. Khonshu, qui n'est apparemment pas très rancunier, ou qui avait vraiment besoin de quelqu'un vide pour combattre Seth, a ressuscité une nouvelle fois son chevalier. Marlène le prend alors dans ses bras en criant
« Steven, tu es revenu !»
Et ce jeu des prénoms démontre bien que le scénariste cherche à recréer l'ancien équilibre. Steven, c'est pour Marlène, Mark, c'est toujours pour Frenchy. Moon Knight est réinstallé, mais demeure un personnage à la marge. Pendant un temps, Marvel va se limiter à quelques mini-séries ou à des rôles secondaires comme dans la BD Marvel Knight. Alors la nuance est mince, mais elle est importante. Il ne s'agit pas ici de vous faire l'historique de la vie et de l'œuvre de Moon Knight, mais de vous parler des passages évolutifs qui ont marqué sa progression. Si je vous raconte les détails de comment un Chuck Dixon ou un autre ont utilisé Moon Knight, c'est aussi pour comparer avec l'utilisation faite par Dungmuench et comment ces passages successifs ont influencé la manière de percevoir le personnage. Je ne vais pas pour autant vous raconter comment ou pourquoi Moon Knight s'est retrouvé dans les rangs des Marvel Knight, ou encore plus tard, comment il a atterri dans les Secret Avengers. Ça, c'est de la biographie pure jus du héros, mais ce ne sont pas des marqueurs de sa progression. Il faut plutôt retenir que c'est seulement en 2006 que Marvel décide de redonner sa chance au personnage dans une série qui lui est propre. Mais cette fois, en faisant preuve d'une certaine ambition commerciale. On recrute d'une part le romancier Charlie Houston pour le scénario, tandis qu'au dessin, c'est David Finch qui s'y colle. Et Finch a ses fans autant que ses anti-fans, mais il faut bien remarquer une chose. C'est la première fois que Marvel joue sur un dessinateur aussi bankable pour relancer la série Moon Knight. Alors je précise, il ne s'agit pas de dire que le vénérable Bill Sienkiewicz n'était pas bankable. Mais il ne l'était pas au moment de commencer sur la série Moon Knight. C'est Moon Knight qui a fait du jeune Sienkiewicz une star, plutôt que le contraire. Là, Finch arrive avec sa carrière faite, et un certain public. Les ventes du premier numéro sont énormes, et de toutes les relances de Moon Knight, ce volume marque le plus gros succès commercial, en tout cas dans les premiers mois. À l'intérieur, l'approche de Charlie Houston est encore différente de ce qu'était celle de Munch ou de Dixon. Houston veut marquer la différence par rapport à Batman. Pour lui, Moon Knight, c'est un justicier urbain qui craque, et qui franchit des limites que Batman, lui, ne dépasserait jamais. Dès les premières pages, on entre donc dans une forme d'ultra-violence, avec le costume blanc de Moon Knight régulièrement taché de sang. Comme un marqueur de la violence voulue par Hudson et Finch, Moon Knight ne tarde pas à affronter à nouveau Bushman. Mais cette fois, il n'y a personne pour chercher à le calmer ou pour lui dire quoi faire. Et cette fois-ci, Moon Knight va le tuer. Mais pas seulement. Après l'avoir tué, Moon Knight lui arrache la peau du visage, toute la partie tatouée en blanc qui le rapprochait d'un Joker. Au passage, c'est à nouveau un moment où Moon Knight anticipe des événements de son concurrent chez DC Comics, puisque le vrai Joker, lui, finira par se faire arracher la peau du visage en 2011. Le sort de Bushman témoigne bien du côté bien bourrin de cette série, même si par ailleurs Houston fait ça dans un certain but. Au début, Houston a l'air d'aller plus loin que Dixon dans la violence, mais c'est pour mieux ramener une forme d'introspection. C'est-à-dire que rapidement, Moon Knight se sent coupable d'avoir tué Bushman au point de le voir partout. Bushman, ou tout au moins l'illusion du fantôme de Bushman, revient alors hanter régulièrement le héros. En un sens, Bushman devient une personne de plus dans la tête de Mark Spector. Et il n'empêche que pendant des mois, Moon Knight va continuer de briser des crânes, de casser des jambes, et ainsi de suite. Cependant, la série tient surtout sur la renommée de ses auteurs, et une fois Finch et Houston partis, les ventes redescendront rapidement, même si les épisodes suivants ne manquent pas d'intérêt. Il y a par exemple tout un arc où la personnalité de Jack Lockley est devenue dominante, et où le héros entre dans la clandestinité pour mieux participer à une sorte de fight club. Je ne vais pas vous lister toutes les séries Moon Knight dans le sens où vous aurez compris qu'il y en a eu beaucoup, vraiment beaucoup, que le personnage est capable d'exister par moments, mais qu'il est souvent juste à la limite de flottaison de la rentabilité. C'est ce qui explique que pour Marvel, il est logique de continuer d'essayer, puisqu'il manque souvent un tout petit truc pour installer le personnage. Moon Knight est plus rentable que Blade, par exemple, mais il a du mal à conserver son public sur le long terme. Aussi, les auteurs successifs cherchent ce petit truc qui pourrait booster la popularité du personnage. En 2011, le scénariste Brian Michael Bendis et le dessinateur Alex Malev essayent le gimmick le plus commercial qui soit, en essayant de transformer le héros en succursale des Avengers à lui tout seul. C'est-à-dire qu'après avoir partagé les exploits des Avengers, Moon Knight est d'une certaine manière sous influence. Selon les moments, il se prend pour Captain America, Wolverine ou Spider-Man. Et en un sens, c'est déplacer le désordre des personnalités. Avant, on pouvait dire d'une certaine manière que Mark Spector avait des personnalités multiples dans sa vie privée, tandis que sa vie masquée, celle de Moon Knight, était relativement homogène. Moon Knight percevait des apparitions extérieures, comme celle de Khonshu, ou le pseudo-fantôme de Bushman, mais ne le considérait pas comme faisant partie de sa propre nature. Là, c'est le costume blanc qui reflète trois aspects différents dans l'espoir d'attirer le public. Si la série a certains points d'intérêt, pourtant elle sera un semi-échec. On est dans un contre-exemple par rapport à David Finch. Bendis, scénariste des Avengers, peine à attirer ses lecteurs vers le titre Moon Knight. En 2014, le scénariste Warren Ellis et le dessinateur Declan Shalvey lancent une nouvelle série Moon Knight, une série Moon Knight de plus pourrait-on dire, mais le choix d'Ellis est d'apporter de la méthode à la folie du héros. Par rapport au gimmick marketing de Bendis et Maliv, on revient vers quelque chose de plus intimiste. Ellis introduit donc deux phases différentes dans la personnalité costumée. Il y a Moon Knight, le justicier traditionnel, et puis il y a Mr. Knight, qui correspond à une nouvelle apparence, portant un costume de ville. Mr. Knight, c'est la personnalité analytique de Moon Knight, le détective, au point d'être consultant pour la police, qui au début d'ailleurs ne sait pas trop si Mr. Knight est bien Moon Knight. Disons qu'elle préfère fermer les yeux. L'apport majeur de cette version dans la série télé se concentre sur ce costume particulier qui à l'écran symbolise un tout autre type de fonctionnement entre les différentes personnalités des héros. Notons que le dessinateur Declan Shalvey est d'ailleurs crédité dans les remerciements, Warren Ellis, entre-temps tombé pour une sombre histoire d'emprise sur certaines de ses fans, ne l'est pas. Mais ça se défend puisque la série télé se borne à emprunter l'esthétique et pas le scénario. En 2016, nouveau volume, cette fois mené par le scénariste Jeff Lemire et le dessinateur Greg Smallwood. Et vous aurez compris qu'après tous ces coups de volant, après toutes ces séries, ces directions différentes, il est temps de refaire le tri. C'est ce que font Lemire et Smallwood en installant une forme de reboot. Moon Knight se retrouve enfermé à l'asile, et peut-être que tous les événements précédents n'étaient que des fragments de son imagination. À moins que l'illusion soit en fait l'asile et que tout le reste était vrai. Moon Knight tente donc de discerner le vrai du faux, tandis qu'on découvre qu'il est manipulé par un nouvel avatar, qui lui obéit à la déesse égyptienne Amet. Il y a aussi toute une dimension humaine du héros, l'émir s'intéressant beaucoup à l'origine des personnalités multiples de Spector, Grant, Lockley et compagnie. Donc on comprendra effectivement que la série télévisée doit énormément à l'approche de l'émir, c'est vrai. Mais l'approche de l'émir elle-même doit beaucoup à ce qui a précédé, et je pense en particulier à certains écrits de Doug Munch, comme la mini-série où Moon Knight ne sait plus très bien s'il est réellement mort ou si tout n'est qu'illusion. Vous connaissez l'histoire des deux fous qui peignent un plafond dans un asile. L'un tient l'échelle, l'autre le pinceau. Le premier prévient son collègue. « Accroche-toi au pinceau, j'enlève l'échelle. » Eh bien, c'est pareil avec la plupart des adaptations de comics modernes, et plus particulièrement avec Moon Knight. Si vous ne regardez que les inspirations anciennes, sans vous intéresser à leur héritage moderne, c'est comme si vous teniez le pinceau, et seulement le pinceau. Ça ne peut pas tenir tout seul. Et vous allez passer à côté de ramifications, comme les liens avec Azrael, Légion ou Umbrella Academy. Mais si vous ne vous intéressez qu'au moderne, c'est comme si vous ne teniez que l'échelle. Vous n'irez guère plus loin que les apparences, et au final, le plafond ne sera pas peint. Il y a besoin des deux choses pour bien comprendre le remixage qu'ont fait les auteurs de la série télévisée. C'était déjà vrai avec WandaVision et d'autres films ou séries télé. Ça l'est encore plus avec ce Moon Knight qui, par nature, ne peut qu'être multifacette. N'y voir que la version du seul Lemire, ou une autre, c'est comme si vous ne perceviez que Mark Spector ou que Steven Grant. Avant de m'éclipser, celle-là était obligée un peu, je vous rappelle qu'Aventure Fiction vit grâce à vos pourboires, que plus vous participez et plus cela me dégage du temps pour d'autres enquêtes. Toutes les informations nécessaires pour cela sont dans la description de cet épisode. Et vous pouvez aussi me contacter via la page Tipeee du projet, où il m'arrive de poster quelques petits trucs en bonus. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à faire tourner ce podcast, à donner le lien, ou même émettre des commentaires ou des notes sur les différentes plateformes prévues à cet effet. À très très bientôt pour d'autres aventures, et d'autres manières d'aborder les comics, et leur univers étendu.